Mérite-t-il séance du conseil municipal le jeudi 21 octobre 2021 à 20h37. Un enregistrement intégral et sans pause. Nous devons donc, avant de commencer ce conseil, faire l'appel nominal. Pomas Valérie présente. Rouvière Olivier.
Présent.
Rouvière Isabelle.
Présent.
Traclay Vincent.
Présent.
Bonomo Elisabeth.
Présent.
Viennot Jean-Marc.
Présent.
Viennot Delphine.
Présent.
Arger Michel.
Présent.
Julien Christian.
Présent.
Hernandez Ruiz Angélique.
Présente.
Passarella Victor donne pouvoir à Vincent Traclay, qu'il accepte.
Oui.
Ferron Catherine. Auré Patrice.
Présent.
Grumet Estelle, qui donne pouvoir à Angélique Hernandez Ruiz, qui l'accepte.
Oui.
Et Caropi Tamaris.
Présent.
Il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Merci. Avec étonnement, Delphine. On la garde finalement. Première délibération, coût de la prestation cantine sans repas. Pardon ? Ah, il n'y a pas l'approbation. Si, il y a l'approbation. Mais c'est pour voir si vous suivez. Nous devons bien sûr approuver d'abord le compte-rendu de la séance du 19 juillet 2021. Sur ce compte-rendu, est-ce que vous avez des remarques ? Des questions ? Donc je le soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, première délibération sur l'école et le coût de la prestation cantine sans repas.
Effectivement, nous propose une délibération pour fixer le tarif de la prestation cantine sans repas. On avait lancé le marché il n'y a pas très longtemps. Le prestataire retenu n'avait pas proposé de repas spécifique pour les enfants soumis à allergie. Donc on vous propose de pouvoir accueillir ces enfants malgré tout, sous réserve qu'ils aient bien un certificat médical présentant cette situation allergique et qu'elle n'est pas trop sévère, et auquel cas on ne peut pas mettre en difficulté si jamais il y a des aliments à côté qui pourraient être dangereux pour lui. Et on vous propose donc un tarif à 2,50 € pour cette prestation sans repas, donc c'est-à-dire garder l'enfant, l'accompagner dans son repas et... Échauffer son repas, tout à fait. Ce prix serait également impliqué en cas de nouvelle crise sanitaire, puisqu'on avait été en question l'année passée au moment de la crise sanitaire sur comment on pouvait tarifer la garde des enfants. Donc on vous propose de faire le même tarif, évidemment, à 2,50 € dans cette situation-là également. Le tarif, il est basé à peu près sur entre le prix du repas et le prix de la garde. Ça fait un équilibre entre le prix de 5,20 € qui est le prix normal du repas à la cantine. Donc 2,50 €, ça correspond au coût de la prestation garde. Donc on a fait le calcul en fait pour arriver à ce montant-là.
Donc c'est logique.
Oui.
Ça, c'est une création de prestation dont elle n'existait pas auparavant.
Non, parce que...
Avant, on refusait les enfants.
De ce problème d'enfants qui
était allergique. Pour l'instant, on a une situation et du coup, on vous propose de remédier tout de suite à la situation.
Oui, parce qu'il y aura de plus en plus de PAI, ce qu'on appelle
PAI.
Oui,
c'est les enfants, tu sais, qui sont allergiques à des choses que... D'autres questions ou remarques ? propose cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Ensuite, école toujours et la convention avec l'agence départementale d'ingénierie de l'Ain.
Oui, effectivement, on propose une deuxième délibération sur l'école. Comme on a déjà parlé, le développement du village amène une nouvelle population, beaucoup de familles à venir qui vont poser des questions sur la capacité de l'école à accueillir ses enfants. La cantine, comme on vous l'indique, est déjà dans une situation critique puisqu'il y a déjà 3 services qui sont réalisés dans une salle très réduite au niveau de l'école. Donc on propose de travailler avec l'agence d'ingénierie sur à la fois le bâtiment tel qu'il existe, donc de voir est-ce qu'en l'organisant différemment, ça peut apporter des solutions et quelles solutions ça pourrait effectivement permettre, et de travailler également sur un nouveau bâtiment à côté de l'école qui pourrait permettre d'accueillir ou la cantine ou d'autres éléments en fonction de ce que dira l'agence d'ingénierie pardon, sur le premier bâtiment, sachant que l'objectif est d'avoir un bâtiment plutôt multimodal, donc qui ne servirait pas qu'à l'école, qui pourrait servir à des associations ou à d'autres activités à définir, mais pour l'instant on n'en est pas encore tout à fait là. Et le souhait, évidemment, c'est pas que l'agence d'ingénierie travaille tout seul, elle travaillera évidemment avec les élus en charge de l'école, mais elle travaillera aussi avec les enseignants, aussi avec les agents du périscolaire, sans doute, plus que sans doute, on travaillera aussi sans doute avec le CME pour échanger avec eux aussi sur comment ils vivent l'école, comment ils vivent le bâtiment et quelles questions ça leur pose. Et tout ça dans une concertation qui devrait être lancée en début d'année, normalement, 2022 jusqu'à juin, et qui doit arriver jusqu'à ce que l'agence d'ingénierie puisse nous proposer plusieurs scénarios, dont des deux, pour aller jusqu'à un prix identifié, alors ce ne sera qu'un premier prix, d'un futur bâtiment potentiel. Et l'agence d'ingénierie a aussi l'intérêt que c'est une agence qui traite aussi les aides mobilisables, donc elle pourra aussi nous indiquer toutes les aides qui pourraient être mobilisables dans le cadre de ce projet. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de lancer l'étude avec l'agence d'ingénierie, donc d'autoriser ce travail-là à se concrétiser. Et donc c'est pour un coût de 3 375 € hors taxes pour 7 jours et demi d'accompagnement assuré par l'agence d'ingénierie, évidemment à des tarifs bien inférieurs à des tarifs consultants classiques, hein, puisqu'on serait plutôt à près de 1 000 € hors taxes par jour. Donc on est à moitié à peu près d'un tarif consultant.
C'est un œil neuf, c'est pas un professionnel. Et vous en avez une vision. Nous, on est trop dedans pour pouvoir savoir ce qu'il faut vraiment que ça.
Dans 7 jours et demi, ils vont nous prendre tout ça. Bien occupé, plus le prix, plus le machin.
C'est une enquête.
Pré-étude.
Ouais.
C'est une pré-étude.
C'est une pré-étude, il ne faut pas attendre. Pour le coup, c'est vraiment leur métier. Hein. Ils l'ont déjà fait pour d'autres communes. J'ai plus en tête les communes qui nous avaient indiqué, mais c'est des choses qu'ils font déjà. Par contre, effectivement, par rapport à ce que tu dis, il ne faut pas attendre qu'à la fin du travail, il y a un projet clé en main avec le bâtiment, le tarif exact.
Et les plans d'architecte.
On est plutôt on est sur un pré-projet. Hein. On est sur un pré-projet.
Identifier les besoins.
C'est le fait de rajouter pour 7 jours et demi. C'est tout, enfin, je m'en fous, ça, il faut quelqu'un. Mais tu dis, ça coûte 3000 balles, mais pour 7 jours et demi, ça ne veut rien dire en soi.
Lui, il va consacrer 7 jours et demi de temps plein sur ça. Quoi.
Ce chiffrage, c'est eux qui l'ont fait.
Bien sûr. Oui.
7 jours et demi.
Sachant que cette étude, elle tombe en même temps d'une délibération qu'on verra après de réflexion sur le PLU. Donc les deux démarches, il faut qu'elles se parlent aussi, quoi. Elles ne sont pas déconnectées globalement et chacune nourrira l'autre sans doute.
Parce qu'au départ, on l'a expliqué ce qu'on voulait quand même, non, on n'a jamais parlé avec eux. Parce que
si.
Sur un bâtiment en face, c'est une idée qu'on a eue depuis avant qu'on soit élu d'ailleurs.
En fait, ils sont venus visiter l'école déjà. Ils ont besoin de la voir vivre à l'école. Ils ont besoin de venir aussi pour connaître comment elle fonctionne et peut-être pour nous faire des remarques sur des choses dont on ne se rend pas compte, et on a peut-être une mauvaise utilisation, ou une bonne,
du bâtiment.
Des salles, etc. Et ça, ils ont besoin de la voir en fonctionnement pour pouvoir nous donner aussi leur avis par rapport à ça.
Est-ce que vous leur avez imposé d'assister aux trois services de cantine? Ça me paraît important. Hein, mais les trois d'affilée, je veux dire.
Bah, bon, ils verront ce qu'il reste.
Bien sûr.
Quand tu dis à côté de l'école, le classement du terrain et tout, c'est pas trop contraignant, il n'y a pas...
Ouais, à côté de l'école, il est encore bon. Il est encore bon. Il est plus bon quand on arrive à l'école. C'est à partir de l'école que le problème se pose, où le bâtiment a plein de contraintes. Pile poil à la fin de la cour. Bien organisé. Voilà pour cette délibération.
Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette convention? Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées? Merci. Ensuite, Isabelle Razel, convention 2021-2022.
Donc cette délibération porte sur le versement d'une subvention pour l'année 2021-2022 au RASED. Donc le RASED, c'est le réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté. C'est un dispositif de l'éducation nationale et c'est calculé, en fait, c'est pour permettre de financer, en fait, plutôt le matériel, les locaux, enfin voilà. Donc le tarif est de 1 euro par élève à la rentrée scolaire. Donc à la rentrée scolaire, on avait 121 enfants, donc la subvention est de 121 euros. Donc du coup, je vous soumets au vote de cette délibération le tarif, donc le versement de la subvention de 121 euros au RASED. Si vous avez des questions.
Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 1 euro par élève?
Non, mais c'est surtout le matériel, c'est informatique, c'est pas le matériel.
C'est un tronc commun, quoi.
C'est oui, c'est pas. C'est, voilà, en fait.
C'est versé par toutes les écoles.
De la Côtière.
C'est le montant global qui permet.
De la Côtière.
Ça va au niveau de l'académie, je suppose.
C'est ça, c'est l'équipe.
Ça permet de renouveler par un vieux test, même quand on fait un test depuis, par exemple, c'est le WISC 4, le WISC 5. Alors, moi, du coup, c'est des logiciels.
C'est du matériel.
Il y a des psychologues qui s'en servent dans les écoles. Il y a aussi tout le matériel pratique, notamment du rééducateur, qui a beaucoup besoin de jouer avec les enfants, ou les méthodes de lecture pour le maître qui fait la harmonisation pédagogique.
Voilà, donc c'est pour la circonscription de la Côtière. Donc en fait, c'est toutes les écoles de la circonscription de la Côtière qui veulent avoir justement la possibilité qu'il y ait des psychologues ou des psychomotriciens, enfin différentes personnes qui viennent à l'école selon. Parfois, on a des enfants à l'école qui ont des difficultés, qui ont besoin justement qu'il y ait des gens qui viennent.
Oui, c'est les enseignants qui demandent cette aide, quoi.
Les enseignants, ça peut être aussi des parents aussi. Enfin, c'est en lien avec les enseignants.
Qui demandent l'autorisation.
Aux parents, voilà.
Et qu'il y ait une rencontre avec leur...
Ok. Ouais.
Donc, qui est contre, c'est ça? Qui s'abstient? Donc, accepté, quoi.
Adopté.
Adopté, pardon.
Adopté.
Ah non, c'est encore moi, après.
C'est toujours toi.
C'est la mutuelle.
Donc, pour cette délibération, c'est une délibération sur une convention pour la mise à disposition des locaux municipaux, donc de la salle des fêtes pour la Mutualité française. Donc, la Mutualité française est un organisme à but non lucratif qui met en place des actions, on a eu des actions pour les seniors,
Oui, donc, cette année, c'est sur les aidants.
Voilà, cette année, c'est sur les aidants. Donc, cette action, c'est aidant votre santé, parlons-en. Donc, c'est un programme sur trois temps. Donc, un premier temps, c'est un café-théâtre à l'Allegro qui est là pour sensibiliser les professionnels, les aidants et tout public qui voudrait connaître le vécu des aidants, leurs risques, leurs problèmes. À la suite de cela, donc il y a une deuxième phase, ce sont des ateliers. Donc il existe trois ateliers. Donc un atelier sur la santé physique, un atelier sur la santé psychologique avec l'aide d'une sophrologue, et il y a aussi la santé sociale. Donc à Thiel, on va accueillir pour la partie santé, psychologique. Donc on aura du coup une sophrologue qui viendra faire une séance de 2 heures. Donc avec c'est pour les aidants qui ont chez eux quelqu'un ou qui sont aidants mais que la personne est placée. Qu'elle soit placée ou à la maison, ça s'adresse aux aidants.
Les deux sont concernés.
Voilà, les deux types d'aidants sont concernés. Donc ça peut être les aidants d'enfants handicapés, d'adultes handicapés, de personnes atteintes d'Alzheimer ou de maladie de Parkinson ou autre. Enfin, tout type d'aidants. Donc là, c'est le premier atelier de 2 heures. Donc TIL, c'est sur la partie psychologique. Et ensuite, pour les aidants qui le souhaitent, il y aura 6 séances, si je ne me trompe pas, 6 séances d'1h30, qui aura lieu le vendredi, d'ailleurs, pour les personnes qui veulent continuer justement sur le côté psychologique, sur leur santé,
Avec le sophrologue.
Avec le sophrologue, oui. Voilà. Les autres ateliers sont, alors je ne me rappelle plus exactement les sites, je sais qu'il y en a un atelier sera à Meximieux et l'autre, je ne vais pas dire de bêtises, mais il est sur la Côtière aussi. Voilà.
Et donc, bien évidemment, on prête.
On prête la salle, la dernière fois pour les. Me renforce après 60 ans. Donc, on prête la salle des fêtes et en contrepartie, ils nous versent une contribution pour le ménage qui est de 60 euros par jour, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui fait un montant de 420 euros. Donc, je vous propose du coup de délibérer pour cette convention, pour signer cette convention. Et donc, pour une recette, merci, de 420 euros TTC, à la charge de la mutualité française.
Les gens qui veulent s'inscrire,
L'inscription est obligatoire. Comment ?
Elle se fait.
Ils ont un mail et un numéro de téléphone. On indiquera tout
comme
ça.
Comme la dernière fois,
sur les réseaux sociaux. On fera donc, entre guillemets, de la publicité sur les réseaux sociaux et sur le fil info pour que tout le monde ait l'information. Et n'hésitez pas à en parler parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'aidants. Et parfois, les aidants ont du mal à venir, et je pense que ça peut leur faire grand bien de venir. Ça permet aussi de discuter, de rencontrer d'autres personnes.
Oui, qui sont dans le même cas, on n'est pas tout seul. Oui, on n'est pas seul. Il y a des personnes qui sont malades, et c'est clair.
Je sais que chaque cas est différent, mais.
Il y a des solutions aussi par rapport à des problèmes.
Voilà. Vous avez des questions ? Qui s'abstient ?
Elle aime bien, c'est ça.
Qui est contre ? Donc adopté alors.
La délibération suivante, c'est pour pouvoir donner pouvoir au maire pour modifier le règlement du City-Stade. Donc. La zone de loisirs plutôt qu'on prend, le city stade, le skate park, la zone de jeu petite enfance, les terrains de foot. Donc le règlement stipule les horaires d'ouverture, les conditions d'accès, les règles d'utilisation. Et on souhaite un petit peu le remanier pour pouvoir... la police municipale nous a fait des remarques par rapport à ce règlement, qu'il manquait des choses, etc. Et donc c'est pour qu'on puisse travailler en commission sur le nouveau règlement et que si on s'aperçoit qu'on a oublié des choses, pas revenir à chaque fois devant le conseil municipal pour modifier un article, etc. Donc en fait, cette délibération, elle a juste pour thème de donner pouvoir au maire de pouvoir modifier le règlement en dehors de chaque fois repassée délibération. Mais par contre, bien évidemment, le règlement et les modifications passeront à la commission enfance qui statuera sur celui-ci. Ça ? Je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération ? Non ? Je vais donc mettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. J'enchaîne sur la délibération avec la convention avec 30 millions d'amis. Donc, en fait, c'est exactement la même convention que l'on avait passée pour l'année 2020 pour participer aux frais de stérilisation de chats, mâles et femelles. Donc, vous savez qu'on verse une somme à 30 millions d'amis et que 30 millions d'amis vient doubler cette somme, ce qui permet de contribuer à la stérilisation de chats, mâles et femelles. Que donc on a quelqu'un qui est super, qui s'appelle Véro, qui fait ça depuis longtemps et que depuis un petit peu moins longtemps, mais très dynamique aussi, elle a trouvé Olivier qui est venu renforcer son équipe. Enfin, maintenant, c'est une équipe puisque voilà, maintenant, ils sont deux. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. C'était aussi une promesse de campagne et c'est quelque chose qui a été quand même déjà... On voit quand même moins aussi de chats qui se promènent. Il y en a encore. Mais maintenant, ceux qui se promènent, normalement, doivent être au moins stérilisés et ne pourront donc pas reproduire. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose la même convention donc, que l'année dernière pour pouvoir conventionner avec 30 millions d'amis et contribuer à stériliser les chats libres afin d'éviter la prolifération des chats errants vivants dans les lieux publics. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Alors, oui. Pardon ? Alors, en fait, on donne, nous, 700 euros. Et 30 millions d'amis, ça fait pour 20 chats, puisque 30 millions d'amis, mais aussi 700 euros. Donc, en fait, nous, en versant 700 euros à 30 millions d'amis, eux doublent la somme et payent directement le vétérinaire qui est partenaire, en quelque sorte, des personnes qui sont en charge de trapper, de capturer, d'emmener, de ramener. C'est un travail, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est un sacerdoce. Hein, parce qu'il faut capturer les animaux, prendre rendez-vous, les emmener chez le vétérinaire, après récupérer les animaux, s'assurer que tout va bien, qu'ils récupèrent bien, les garder au moins 24 heures tranquilles pour qu'ils récupèrent bien, avant de les remettre là où on les a trouvés. Donc c'est vraiment un sacerdoce quoi. Mais franchement c'est nécessaire parce que sinon on se retrouve avec des chats qui prolifèrent de partout et c'est pas ce qu'on souhaite quoi. Comment ? Alors pour l'instant on en est on va pas être loin déjà des 40. Et donc, alors tous ces chats sont pucés. Pardon ? Oui, bien sûr. Mais il y en avait vraiment beaucoup. Alors par contre, après, une fois qu'il y a la stérilisation qui est faite, on reçoit la fiche de l'animal puisqu'il est pucé. Hein. Donc il y a une fiche, il est identifié, pucé, et s'il était recapturé. En fait, avec l'identification, il n'y a pas de problème pour pouvoir l'identifier et ne pas évidemment le réopérer pour
oui,
rien. Quoi.
C'est pour ça que lui, il a fait un dossier photo.
Voilà,
parce
en
que
plus.
Rien ne ressemble plus à un chien. Donc un dossier photo pour pas, parce que c'est déjà arrivé une ou deux fois que le vétérinaire sorte. Ah, mais celui-là, on l'a déjà eu. Quand il y en a des dizaines.
C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y en a moins maintenant, et
oui,
heureusement,
ça commence.
Ouais, ça commence.
Alors on a attrapé aussi Véro dans la zone industrielle.
Oui.
Et on a stérilisé aussi là-bas, parce que là-bas, il y avait beaucoup aussi.
Ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui en ont amené un ou deux, et puis après, voilà quoi. C'est toujours le même phénomène. Hein, et vraiment, heureusement qu'on a Véro et Olivier maintenant, parce que c'est vraiment un sacré travail. Quoi.
On a dit qu'on en parlerait aussi au Conseil d'enfants, je me permets cette petite aparté, et de contacter Kevin Plania, parce qu'il est aussi... Vous êtes responsable de la préservation de l'association de préservation des animaux de la Côtière.
Oui.
Donc c'était intéressant déjà de travailler sur la faune générale, les dons, tout ça.
Oui, on souhaiterait qu'ils puissent venir nous voir. Je lance un petit appel des fois s'il y a un journaliste qui m'entend. On souhaiterait qu'ils viennent venir rencontrer le conseil municipal des enfants pour pouvoir nous parler aussi des animaux qu'on rencontre sur la Côtière et notamment comment peut-être construire un abri pour les hérissons ou ce genre de choses qui pourraient aussi être très intéressant pour le conseil municipal des enfants. Voilà, le message est lancé. y a-t-il d'autres questions sur cette délibération avec 30 millions d'amis? Alors, je la soumets. Oui.
Et aussi, avec le conseil d'enfants, si on fait une lettre avec les enfants à la Fondation Barbeau, on peut obtenir des bons marques.
Oui.
Ça peut aussi
c'est ça.
En plus.
Voilà.
Et les enfants, du coup, seraient partenaires en tant qu'enfants du projet municipal des adultes.
Voilà. Donc, indépendamment de la fondation de 30 millions d'amis, on peut également, donc, avec la participation du Conseil municipal des enfants, faire une lettre commune au Conseil municipal des enfants pour pouvoir demander des bons bardeaux qui nous permettent d'avoir des stérilisations supplémentaires.
Voilà.
Voilà. Bien. Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Adopté, je vous remercie. Nous passons sans transition à la voirie et la rue Neuve.
C'est suite aux travaux qu'il y a eu de sécurisation sur la rue Neuve, avec la mise en place des trottoirs et la création d'une écluse pour permettre aussi un accès PMR sur tout un côté. Il faut qu'on passe une convention avec le département pour officialiser ces travaux, vu que les terrains, ils ont changé. Donc voilà. Donc c'est juste une convention pour autoriser Madame le maire à signer cette convention qui avait déjà été faite avant que les travaux commencent, parce que le département, il voulait valider les plans avant et il fallait que la convention soit établie avant que les travaux commencent. Donc voilà, c'est juste... une régularisation, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, sauf que la rue Neuve, il n'y a plus que le marquage au sol en effet à faire.
Donc, voilà. Provisoire.
On vient d'envoyer le devis, je pense, validé, signé.
Non, la commande,
après, je sais pas, non, j'ai pas eu de nouvelles pour le moment. Donc, ça va pas tarder, de toute façon, il faudrait que ce soit fait avant l'hiver, ça serait mieux. Donc voilà. Voici.
Pour le marquage provisoire, il faut bien spécifier, c'est que pour ne pas faire des grands marquages qui soient définitifs, pour voir si ça va bien, c'est pour une étude. Hein, quand
non, mais c'est que des petits angles qui sont faits au début.
Des petits angles.
Voilà, ouais, mais moi je sais, mais... Ah.
C'est du pré-marquage, en fait.
La raison, Jean-Marc, de préciser, c'est un pré-marquage, en fait. C'est, on matérialise les angles...
Les futures places.
Les emplacements de stationnement. Et c'est surtout pour voir si ça vit bien par rapport aux habitants qui rentrent, qui sortent, etc., qui nous disent aussi leur ressenti. Ça permet de... déjà, on a vu ce marquage avec eux. Ils nous ont fait déjà des remarques donc pour installer certains miroirs, entre autres. Mais on a besoin de tester en réel. Hein, pour il y a un moment où il faut essayer pour voir si tout fonctionne.
Et pour finir, on peut aussi dire qu'une fois qu'il y aura les places de stationnement, et même maintenant... Les voitures, elles devront être garées dans les places de stationnement ou chez les particuliers, mais pas sur les trottoirs, comme malheureusement, c'est beaucoup le cas en ce moment. Et que les trottoirs, ils sont faits pour les piétons et pas pour les voitures. Donc, voilà.
Et surtout qu'ils ont coûté cher à tout le monde. Et donc, quand les voitures grimpent dessus, ça les abîme vite.
Et ouais, puis surtout, les piétons sont obligés de marcher sur la route, du coup.
Et les poussettes avec.
Et les poussettes avec, en effet. Donc voilà.
On ne pense pas toujours, mais c'est surtout les poussettes. Quoi. Quelqu'un, il y a une famille qui serait qu'une poussette.
Même un piéton.
Ouais, mais même un piéton, après.
Non, mais quand on voit le nombre de jeunes qui sont qui descendent du bus, ou qui prennent le bus, ou qui ont des amours, donc qui passent sur le trottoir. S'il y a des voitures qui sont garées sur le trottoir, ils sont obligés d'aller sur la route.
Après, moi, j'ai déjà vu un piéton marcher sur la route et pas sur la
route. Oui, mais bon, c'est ça.
Chacun prend sa responsabilité.
C'est vrai que c'est ça.
Il y a toujours le piéton kamikaze.
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.
C'était une promesse de campagne, puisque notre PLU voté le 13 novembre 2015 a presque jour pour jour 6 ans, et que bien les choses évoluent, les règlements évoluent, non seulement tous les Grenelles, la loi Allure, rénovée, amendée, des décrets qui paraissent, etc. Au bout de 6 ans, il faut se rendre compte maintenant avec l'assainissement et le PLU tel qu'il a été vécu dans le village, et bien d'abord tirer un bilan, de faire le constat de ce qu'il en est, et puis partir sur le PLU de demain, construire ce PLU pour participer également à la transition énergétique, pour préserver notre patrimoine bâti, pour qu'il soit aussi conforme avec le SCOT, le schéma de cohérence et d'orientation du territoire, qui, lui, a été adopté en 2017, donc après le PLU. Le SCOT, je vous le rappelle, c'est l'organe qui détermine bien les zones sur le territoire Bugey, Côtières, Plaine de l'Ain, qui doivent rester agricoles, qui doivent rester zones vertes, qui peuvent s'urbaniser ou pas. Il faut aussi être conforme avec tout, avec les services de l'État, en eux-mêmes, bien évidemment. Et pour ça, donc, on a besoin de faire une étude de cadrage avant de lancer cette révision. Une révision du PLU, ça part environ sur 30 mois. Et donc, pour ce faire, il y aura bien évidemment des temps de concertation, des temps d'affichage, des temps de communication, des temps de réunion, et des réunions avec un S. On n'a pas dans la convention, bien évidemment, mis réunion au singulier. Des possibilités de rencontrer les élus qui sont plus en charge pour pouvoir exprimer tout au long de la procédure ce que vous souhaitez voir réaliser, et vous tenir informé, bien évidemment, la population sur toute cette évolution et toute cette procédure qui va prendre du temps, mais qui est nécessaire parce qu'on est aussi zone Natura 2000, SNIEF, etc., et que cette révision du PLU fait également objet d'une évaluation environnementale. Hein, ça, c'est obligatoire et nécessaire. Et puis, il faut aussi tenir compte de la population qui arrive dans le village, tenir compte, ça c'était le constat de la réunion publique, de dire que dans notre village, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de logement pour accueillir nos jeunes. On sait que si les jeunes s'en vont du village, ils ne reviennent pas. Les jeunes, c'est aussi la mixité. On n'a pas de lieu pour de petits appartements pour accueillir les seniors. Par exemple, si, je ne sais pas moi, nos parents souhaitent se rapprocher et souhaitent habiter dans un petit logement, ben ça, on n'a pas. On n'a pas de logement pour les familles monoparentales, et on n'a pas non plus de logement si on est, je ne sais pas, victime d'un accident de la vie et qu'on ne peut plus habiter dans une maison avec des escaliers, etc. On n'a pas ça. On a-t-il des logements qui peuvent loger des familles avec des enfants dans des maisons, mais on n'a pas cette mixité de logements. On doit être conforme également au PLH, le PLH 2021-2026, qui vient d'être approuvé par la communauté de communes et qui détermine aussi une typologie de logements à construire et notamment des logements sociaux. Comme on l'a rappelé en réunion publique, un logement social, c'est pas un gros mot. Plus de 80% de la population est éligible au logement social. Ça veut simplement dire qu'on sait maintenant, le droit au logement, c'est un droit, on doit pouvoir se loger de manière décente à des prix correct. Et au jour d'aujourd'hui, avec la pression immobilière qu'on a, on sait que se loger, ça devient très compliqué. Quand on a une petite retraite, quand on est étudiant, quand on est travailleur précaire ou même quand on débute dans la vie, peut-être nous, on a eu la chance de pouvoir toujours à peu près trouver à se loger de manière où ça ne coûtait pas trop cher. Mais maintenant, pour un jeune ou un senior qui a la retraite et qui n'a pas une grande retraite, se loger, c'est compliqué. Et on doit pouvoir offrir ce panel pour pouvoir avoir une mixité. Quand on offre la mixité, on offre une population qui se stabilise, mais qui évolue quand même. C'est-à-dire qu'il y a un turnover. Les jeunes s'installent ici et puis après, ils peuvent faire des enfants, acheter plus grand, etc. Remplacés par d'autres jeunes ou par des seniors, etc. C'est la mixité. Ça permet de lisser la population, mais d'avoir toujours quand même un renouveau. Et c'est ça dont on a besoin dans un village. On a besoin de toutes les tranches d'âge et de catégories de population. Donc voilà, c'est un grand moment aussi pour ce conseil municipal, parce qu'une révision du PLU, ça va également engendrer beaucoup de travail, beaucoup de temps de réunion, de réflexion, d'écoute pour tous. Je pense qu'on en a déjà parlé longuement, on s'y est préparé également. Pour ce faire, bien sûr, on ne va pas faire ça tout seul. Alors, je cherche, autant les coordonnées d'EBR, je connais parce que c'est un cabinet qui officie déjà dans la région et qui connaît très bien le territoire, mais je cherche les coordonnées de cabinet qui va réaliser l'étude environnementale et qui s'appelle MTDA. Voilà, c'est ça. Je recherchais le nom. Donc, dans un premier temps, bien sûr, donc étude de cadrage, on l'a dit, pour pouvoir établir, et on va en parler souvent, un PADD, projet d'aménagement de développement durable. Donc, c'est le premier document qui, une fois conçu, sera présenté à tous les habitants. Ce n'est pas le PLU, un PADD, c'est un projet d'aménagement et de développement durable. C'est les grandes lignes de ce qu'on dessine et de ce qu'on souhaite pour le village de demain. On sait qu'on est contraint aussi par ne plus artificialiser. Je ne voulais pas le dire ce mot parce que je n'y arrive pas. Imperméabiliser, ça va mieux, mais artificialiser les sols, on ne peut plus non plus. Et il faut tenir compte de tout ça, tenir compte de la transition écologique. On veut aussi des constructions qui soient faites peut-être ou avec des matériaux, je ne sais pas. Enfin, on a tout à imaginer et tout à construire. Alors c'est intéressant, ça va prendre du temps, mais je pense que c'est plus que nécessaire. Et puis c'était donc, comme on l'a dit, une promesse de campagne. Et je pense qu'on doit prévoir le village de demain pour nos enfants. C'est important. Il faut tenir compte qu'on accueille des nouveaux habitants. Il faut pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Mais ce n'est pas seulement le logement, c'est aussi la voirie qui va avec, c'est aussi les infrastructures, les écoles, les transports en commun, enfin, tout ce qui fait qu'on vit bien dans un village ou pas. Et je pense qu'on a peut-être eu tendance à oublier un certain nombre de facteurs dans ce qu'on a fait avant, et qu'on peut construire, mais si on est tous les uns derrière les autres le matin, c'est pas très agréable. Et donc c'est tout ça qu'il faut qu'on prenne en compte. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de se faire accompagner, qu'on a besoin des habitants, qu'on a besoin de tous les élus aussi pour pouvoir mener à bien ce projet. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération qui va lancer le grand chantier, si je puis dire, de la révision du PLU? C'est vrai qu'on en a déjà débattu, que ce soit en commurba ou que ce soit en commission générale, mais... Des choses à rajouter, Olivier? Le coût, peut-être?
En plusieurs étapes.
Également, et puis entre 25 et 30 000 sur le volet PLU lui-même et la rédaction du document, évidemment, avec toutes les phases amont à la rédaction.
Et bien évidemment, on va essayer d'aller chercher quelques subventions qui vont nous permettre de soulager un peu aussi financièrement le coût d'une révision de PLU. Hein. C'est pas anodin pour le budget de la commune, hein. C'est quelque chose aussi qui coûte cher. Mais c'est pour ça aussi qu'on a, on a sollicité plusieurs cabinets, hein, et qu'on a retenu le cabinet d'EBR parce que c'est aussi c'est des personnes qui ont travaillé sur, qui connaissent très bien le territoire, qui connaissent très bien le SCOT, le PLH, etc. et qui pourront, on a aussi, comme pour l'ingénierie de l'Ain, on a besoin du regard extérieur parce qu'on est trop dedans et ils ont besoin de, enfin on a besoin d'eux pour qu'ils puissent nous donner leur regard du village pour tout ce qui est voirie, infrastructure, mais aussi nouvelles constructions. On n'est pas des urbanistes ni des architectes, donc il faut essayer de se faire accompagner le mieux qu'on peut pour pouvoir répondre du mieux qu'on peut à tout ça. Donc il y aura dès demain un cahier qui sera mis à disposition de tous les habitants pour pouvoir recueillir toutes les observations qu'ils souhaitent faire. On y répondra au fur et à mesure des réunions avec le cabinet. Donc, je répète, hein, ce n'est pas l'enquête publique ni la révision, c'est l'étude de cadrage, c'est ce qu'on souhaite. On peut venir écrire dans ce cahier tout ce qu'on souhaite pour le village qu'on veut voir demain. Et tout au long de la procédure, donc tout sera communiqué sur le site de la commune, mais également mis à disposition à la mairie, etc. Voilà ce que je peux vous dire sur cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Allons-y. Alors, si vous n'avez pas plus de remarques, je mets cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Elle est lourde, celle-là, de délibération, parce qu'elle nous engage pour un petit moment.
Oui.
Alors, la délibération suivante, je vais vous parler de la Cégapal. La Cégapal, c'est la société qui est gestionnaire du Grand Parc. Nous devons approuver le rapport 2020. Vous savez que TIL est actionnaire de la Cégapal, parce que nous sommes une partie du village, celle qui est de l'autre côté du Rhône et qui est sur le territoire du Grand Parc, et bien c'est toujours TIL. Nous sommes donc actionnaires de cette SPL qui est présidée par Issam Benzeghiba, qui est entouré de 4 vice-présidents, qui sont Madame Nathalie Descours, qui est conseillère municipale à Miribel, De Madame Anne Reveyran, qui est à Villeurbanne, ainsi que de Monsieur Jean-Claude Rey, qui est à la Métropole, si je ne m'abuse, parce que je me trompe toujours entre Métropole et les villes, ça j'ai toujours du mal. Mais je crois qu'il est aussi à Villeurbanne, je ne sais plus. Enfin voilà. Et puis moi-même, hein, je suis vice-présidente aussi Cégapal au niveau de la cohésion des territoires, donc c'est une société que je connais bien. Et qui donc ses missions, eh bien, c'est la gestion du Grand Parc. Elle est c'est le CIMALIM qui est propriétaire du Grand Parc et qui a donc délégué à la Cégapal la gestion. Et donc, c'est vous présenter ce rapport d'activité 2020 qui, pour la première fois de son histoire, est un petit peu déficitaire au vu de ce qui s'est passé en 2020. Vous savez que le Grand Parc a été fermé, n'a pas pu fonctionner normalement. Donc, c'est pas étonnant, si je puis dire, que les chiffres qui vous sont présentés ne soient pas positifs cette année. Donc Cégapal, c'est environ 70 salariés. Hein, il y a jusqu'à 120 salariés qui travaillent en période de pointe.
Vous savez, donc, c'est une société dont nous sommes actionnaires. Et en tant qu'actionnaires, nous pouvons faire appel à elle pour différentes missions. Alors, aussi bien d'AMO, hein, ils peuvent très bien concevoir une voirie, concevoir un city-stade, concevoir tout ça de début jusqu'à la fin, mais aussi entretenir des espaces verts. La commune de Niévrauz, cette année, a fait appel à eux. Les communes de Jonc, les communes de Jonc, même la CCMP, la ville de Vaux-en-Velin fait appel à eux pour la brigade équestre, puisqu'il y a aussi une brigade équestre au Grand Parc. Il y a aussi une gestion pastorale qui est développée au Grand Parc et qui commence à intéresser d'autres communes, parce qu'ils étaient un petit peu précurseurs dans ce domaine, et c'est quelque chose qui font bien. Il y a également toute la gestion de ce qu'on appelle le Besin. Le Besin, c'est le chemin qui va jusqu'au Grand Stade et qui est géré et qui est entretenu par la Cégapal. Et également, toute la partie du parc de Saint-Priest qui est gérée par la Cégapal et qui a obtenu les félicitations de la métropole au dernier conseil syndical du CIMALIM pour sa très bonne gestion, parce qu'il faut reconnaître que les gens qui travaillent à la Cégapal, c'est vraiment des amoureux de la nature. Ils essayent de la valoriser dans tous les sens, au niveau de la biodiversité. Pour donner un exemple tout simple, hein, derrière le bureau du président de Issam, il y a une espèce de prairie qui est vue de personne. Et en fait, cette prairie, il laisse l'herbe pousser, parce qu'ils ont acheté une petite machine. Et c'est pas très grand, mais malgré tout, dans cet endroit, ils font des petites bottes de foin qui peuvent donner comme ça aux animaux qui vivent dans le Grand Parc et qui leur servent de gestion pastorale. Enfin, je veux dire, c'est une philosophie. C'est une philosophie et il s'adapte à toutes les communes. Donc mon rôle dans la Cégapal en tant que vice-présidente, eh bien, ça va être d'aller rencontrer toutes les communes qui sont actionnaires pour justement promouvoir ce que sait faire la Cégapal, parce qu'elle sait aussi gérer de l'espace des bâtiments, comme l'atoll ou comme l'Iloz, mais aussi venir faire des informations dans les écoles sur la biodiversité. Ça, la Cégapal, elle le fait aussi. Il y a des tas de choses qu'elle fait, on ne le sait pas toujours. Ce n'est pas que le gestionnaire du Grand Parc qui accueille entre 3 et 4 millions de visiteurs par an. Pour vous donner un ordre d'idée, un jour de pointe au Grand Parc, c'est environ 55 000 personnes. Donc il faut gérer tout ce flux, il faut gérer les déchets, il faut gérer tout ça. Et c'est ce que fait la Cégapal. Donc voilà. Oui. C'est 2200 hectares. Donc je crois que c'est le deuxième plus grand. Je crois qu'il y en a en Allemagne. Et c'est le deuxième plus grand. Donc, je ne vais pas vous faire tous les détails de tous les comptes. Vous avez eu les délibérations. Simplement vous dire donc, que le résultat d'exploitation était à moins 113 000 cette année. Que le rapport de gestion complet est consultable, que tout sera mis évidemment sur le site. Que puis-je vous dire? Donc en 2020, la Cégapal a travaillé pour la mairie de Jonc, la métropole de Lyon, la ville de Vaux-en-Velin, la ville de Mézieux, la CCMP, la métropole de Lyon, bien évidemment, la mairie de Villette-Danton et la mairie d'Anton, pour différentes missions, hein, que ce soit de la brigade équestre, des AMO ou des travaux d'entretien divers et variés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rapport 2020 ou par rapport à la Cégapal ou non? Bon. Alors je vais donc soumettre ce rapport à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Mais je sais même pas si on vote ça. On vote ça? Oui, oui, oui. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Eh bien, adopté. Je vous remercie. Et enfin, pour conclure, nous allons également parler du rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau à-t-il. Donc, le rapport annuel, vous avez dû le voir. Vous verrez que nous sommes en 2020, nous avons 10% d'abonnés en plus. De 418 en 2019, nous sommes passés à 460. Alors que la commune de Niévrauz, puisque nous sommes deux dans le syndicat, n'augmente que de 2,8%. Que par contre, la consommation est un petit peu en baisse.
Donc, il y en a qui font mieux, plus attention.
Peut-être, est-ce qu'on fait plus d'économies ?
Est-ce qu'il y a moins de fuites ?
Alors, est-ce qu'il y a moins de fuites ? Pas vrai. Alors, est-ce qu'on fait plus d'économies ? Ils disent aussi que, comme ça a été la période 2020, il y a peut-être eu plus d'estimations au niveau des compteurs que de relevés chez les abonnés. Voilà, donc ils disent
ça
que
c'est
un peu une année.
Ils n'ont pas relevé, ils se sont arrêtés. Et puis il y a beaucoup de.
Ils n'ont pas fait des vrais relevés.
C'est ça. Et puis il y a eu. Alors ils parlent aussi de vol d'eau, etc. Qu'il y a des entreprises qui se servent tout ça. Mais je sais que par exemple aux travaux d'assainissement qui ont eu lieu, il y a eu des compteurs qui ont été installés. Mais peut-être que la facturation ne s'est encore pas faite. Hein, donc c'est pour ça que dans leur rapport ils parlent de ben, il faut un petit peu mettre à niveau tout ça parce qu'ils sont pas sûrs de. C'est ça. Oui, mais là, c'est pareil. Il y a eu un compteur et ça sera régularisé par la communauté de communes, la TCMP et 3CM, hein, qui doivent normalement payer la facture d'eau. Hein.
Il y a le
facteur météo où on a moins...
Les années de canicule ou les années de...
Ouais.
C'est 2020. C'est pour 2020 ?
Non, mais là, c'est 2020. C'est pas 2021.
2020.
Il y avait quand même une météo en 2020.
Oui, mais elle était chaude.
2020, il a fait plus chaud. Hein.
Oui, peut-être.
Par rapport à 2019. Ça, c'est 2020, hein. C'est pas 2021.
Versus donc, cet été,
mais,
par exemple.
Cet été, où il y a beaucoup plu, l'année prochaine, si ça se trouve, on va se retrouver avec des consommations aussi peut-être stables. Hein. Mais là, ils disent clairement dans le rapport qu'au niveau des relevés de compteurs, ils ne les ont pas tous faits en réel. C'est souvent des estimations. Donc les chiffres sont, peuvent être faussés. Quoi. Voilà. Sinon, au niveau du prix de l'eau, alors la part de la collectivité n'augmente pas, mais par contre, la part du délégataire, oui, désolé. Donc le prix de l'eau, c'est 2,20 euros, je crois. Le... J'ai lu 2,20, moi. C'est la plus chère de la communauté de communes, oui, effectivement. Oui. Je poserai la question la semaine prochaine, puisque nous avons le rapport de...
Parce qu'on a fait énormément de...
De l'eau potable, de oui, aussi.
Ah oui.
Déjà tout île, ça, on a tout refait île.
Bah, pas tout.
Tout île et tout ça, c'est énormément de travaux.
Le tour principal. Les autres...
Alors, on n'a pas refait tout île. Hein. On a refait toutes les canalisations d'eau potable là où est passé l'assainissement, mais ce qui représente quand même 840 000 euros. Hein.
Oui.
Ce qui n'est pas négligeable.
Ça va vite. Une grosse partie.
Par contre, au niveau de la qualité, il y a eu zéro non-conformité. Donc, tous les prélèvements au niveau de la qualité de l'eau étaient conformes.
Le captage.
Alors, oui, c'est Tim. Mais il y a aussi de l'eau qu'on achète. En fait, c'est un cône qui vient de beaucoup plus haut et qui descend comme ça jusqu'au château d'eau. Ça fait vraiment la forme d'un cône, comme ça. C'est tout un espèce de bassin. On voit ça sur Internet, on trouve ça sur le site du syndicat, où on voit bien ce cône qui est un bassin captant où on vient capter l'eau ici. La production, donc, c'est l'usine de Tille, ce qu'ils appellent l'usine de Tille. Mais on a également aussi acheté de l'eau. On en achète à La Boisse et à Dagneux. Et on en vend aussi à La Boisse.
À La Boisse, il y a eu un loup. Parce que normalement, les compteurs ont du mal marché parce qu'on n'a pas, d'après Suez, pas acheté autant d'eau. Il y a eu un blème là-dessus. Parce que, d'habitude, c'est nous qui fournissons... à La Boisse, et là, il y a un moment donné, il y a eu
un couac,
50 mm cubes.
Ça, c'est pour ma culture, mais le traitement de l'eau avec des produits pour tuer les bactéries, etc., ça se fait où, ça
Tout au château d'eau.
Au château d'eau.
Tout est au château d'eau.
Oui. En fait, régulièrement, il y a des personnes qui viennent, qui prennent le chemin du château d'eau, qui vont jusqu'au château d'eau, et qui, à l'intérieur, font les...
Il y a tout ce qu'il faut.
Il y a des sondes automatiques
qui analysent. Je n'y suis jamais allée.
Tu
as visité, toi, déjà ? Ouais.
Oui.
On pourrait organiser
une visite du château d'eau.
Alors, il faut demander à Jean-Marc ou à Christian qui allait au syndicat Tignévrose pour savoir si on pouvait. Eh ben voilà.
C'est possible.
Donc,
après,
chacun notre tour, on peut.
C'est intéressant de voir.
Sinon, ils n'ont eu aucune réclamation. Si vous voulez brancher l'eau, le délai est de un jour ouvrable et apparemment, il est respecté puisqu'il n'y a eu aucune réclamation concernant ces branchements. Voilà, que dire encore sur la qualité de l'eau, bien non, rien de particulier. Oui, donc le renouvellement du réseau d'eau potable à la commune de Tille représente donc la somme de 840 000 euros. Et le syndicat n'est pas endetté, hein, puisqu'il a des crédits qui finissent en 2023. Ce n'est pas pour des sommes très importantes.
Et une remarque pour répondre à ce que disait Patrice, c'est que, y compris la porte du château d'eau, elle est très sécurisée.
Pour éviter
que quelqu'un aille et verse des produits dans l'eau et a toxique.
S'il y a des moyens, c'est
ultra sécurisé. La porte du château d'eau,
Donne pas de mauvaises idées, s'il te plaît. Tout le monde t'entend.
Non, mais justement,
D'ailleurs, le code, c'est 22-3.
Il y a un Cerber de toute façon devant.
C'est ça. Bien, est-ce que vous avez d'autres remarques sur ce rapport annuel de la qualité de l'eau à Tille ? Alors, je le propose à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté, je vous remercie. Nous passons aux questions diverses.
J'ai une question autour de l'aire de grand passage. On s'avait fait un peu les chouvins de la presse, là, au mois de septembre, je crois, tout à la rentrée.
C'était quand elle a ouvert au mois de mai.
Quelle est aujourd'hui la situation ? Elle est pleinement fonctionnelle ? Alors,
une aire de grand passage, elle a une ouverture au 1er mai et une fermeture au 31 octobre.
D'accord.
Là, elle a fermé un peu plus tôt parce qu'il y a des travaux à réaliser. Notamment, il y a une pelle en ce moment qui réalise des fouilles archéologiques. Parce que pour pouvoir... elle a été ouverte de manière provisoire pour pouvoir accueillir... mais elle n'est pas finie dans son fonctionnement. Et donc, l'État a imposé des fouilles archéologiques à faire sur cette aire. Donc, ils sont en train. Ils sont en train également d'enlever tous les détritus qui ont été laissés. Et là, il y en a... Et là, donc, cette semaine, on s'est fait voler le grillage qui avait été posé, puisqu'il y avait eu de... Je crois que c'est 60 ou 70 mètres de grillage en dur qui ont été volés. En fait, les poteaux ont été sciés et le grillage a disparu sur environ 60 mètres.
Donc voilà.
Et donc là, les travaux maintenant de pour la rendre définitive vont être réalisés cet hiver, notamment les travaux pour brancher l'eau. Pour brancher l'électricité, pour réaliser des toilettes. Et normalement, elle devait être terminée de clôturer. Mais là, en fait, il faut recommencer à clôturer et puis continuer la clôture qui doit être faite.
Avec l'objectif d'être pleinement opérationnel
pour le 1er mai de l'année prochaine, puisque ça ouvre normalement du 1er mai au 31 octobre, ce qui est différent des aires de petit passage, hein, qui, elles, comme à Bénaud ou à La Boisse, qui, elles, sont ouvertes tout le temps. Qui sont juste fermées pour des travaux de remise en état, souvent, parce qu'elles sont souvent abîmées aussi.
Parce que c'est grande, parce qu'il y a combien de...
200.
200 ?
Une aire de grand passage, c'est en général le dimensionnement, c'est 4 hectares, 200 caravanes. En fait, on dépend d'un schéma départemental qui est fait par la préfecture. et qui détermine le nombre de, enfin le nombre de la surface nécessaire, ce qu'il faut dessus, etc.
C'est à moitié de Tille, quoi. Moitié d'habitants de Tille.
200 caravanes, si on considère peut-être deux ou quatre personnes, trois, quatre personnes dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais encore faut-il qu'il y ait 200 caravanes en même temps. Hein. C'est souvent des groupes qui sont annoncés. Hein. Ce sont des groupes itinérants, mais qui sont annoncés. Enfin, on a un calendrier, hein, normalement, sur la saison, où ces groupes, normalement, c'est souvent des pasteurs, d'ailleurs, qui annoncent arriver à telle date et repartir à telle date. C'est la préfecture qui gère le planning. Il y a quelqu'un à la préfecture qui est dédié gens du voyage, qui ne fait que ça, et qui gère donc ces déplacements. Au niveau des questions diverses, est-ce que vous avez d'autres... Oui. Alors le BMX, l'avant-projet sommaire APS, a été présenté au Conseil communautaire hier. Et surtout, en fait, hier, ce qui a été délibéré au Conseil communautaire, c'est la demande de subvention qui est faite, comme tout projet, hein, que ce soit un BMX ou une aire de grand passage, demande de subvention à l'État pour pouvoir justement essayer de recueillir des subventions pour financer le projet. Donc c'est un projet qui date depuis très très longtemps, qui est passé sous des phases où ça coûtait 3 millions d'euros. Maintenant on est redescendu, le coût prévisionnel est à 1,8 million d'euros, donc c'est plus les 3 millions prévus. Mais de toute façon, donc là c'est l'avant-projet sommaire avant le projet définitif. Et puis ce projet un jour va arriver sous la forme du permis de construire qui sera déposé à la commune de Tille, hein, et qui sera instruit et par la Comurba et par la CCMP et par les services de l'État qui auront à se prononcer sur la réalisation ou pas de ce projet.
Il y a des grosses divergences là-dessus, non, la CCMP sur ce sujet-là d'ailleurs. Non, il n'y avait pas ça.
Alors c'est toujours un projet qui a fait débat, le BMX. Je dirais que au niveau de ça, c'est toujours pareil quoi. Hein. Le problème c'est que c'est un BMX, il y en a un à Bénaud, qui est sur un terrain sur lequel il ne peut pas rester. Et puis pour se développer, il lui faut un équipement qui soit beaucoup plus adapté. De clubs de BMX sur le département de l'Ain, il n'y en a pas. Il y en a dans le Rhône, mais il n'y en a pas dans l'Ain. Qu'ils se fassent ici ou Bourg-en-Bresse, Oyonnax, etc., c'est peut-être mieux ici, parce que finalement, il y aura peut-être plus d'adhérents potentiels. C'est un sport qui est olympique maintenant, et on sait qu'on a aussi des champions de BMX. Peut-être que ça développera la pratique de ce sport si ça se fait dans des conditions qui sont mieux pour le... Enfin, moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne au niveau de la rampe, mais je sais que, Vincent, aide-moi, il y a peut-être... Je sais que ce n'est pas une rampe de 6 mètres, là, qui va être faite, mais de 5 mètres.
5, et après, ils auront la possibilité de faire une rampe à 8 mètres, qui est la hauteur olympique.
Voilà.
Pour les championnats d'Europe. Mais dans le projet, il est évolutif, parce qu'au départ, il commence à 5 mètres, mais ils ont gardé la place pour faire une rampe si le club veut un jour organiser des compétitions ou aider les compétiteurs qui vont à ce niveau-là, on pourra faire évoluer. Il n'y a pas que une rampe à 8 mètres de haut pour partir sur les championnats d'Europe, championnats du monde, championnats olympiques, ça part de beaucoup plus haut. Déjà 5 mètres, c'est haut.
Je pense, oui.
Moi, c'est déjà en parlant million, alors. Après, c'est con s'il manque 50 000 balles pour faire un truc qui est homologué.
Non, mais là, ça sera homologué. Hein. Ils pourront faire déjà des compétitions de très haut niveau. Quoi.
Et après, il y aura la possibilité, parce que c'est quand même pas le même prix, de passer. Et pour le moment, ils n'ont même pas non plus l'utilité. Mais dans le projet, il est fait de telle façon que s'il faut rajouter une deuxième rampe, parce que souvent, les pistes qui accueillent des grosses compétitions, elles ont les deux rampes. La piste se rejoint à un moment. Il y a une rampe à 100 mètres et une rampe à 8 mètres. Il n'y en a pas beaucoup des pistes comme ça, même en France, je crois qu'il y en a.
Non, il y en a très très peu.
Il y en a
très très peu. Ça sera un équipement au niveau français qui sera vraiment de grande renommée, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France, effectivement.
Mais à ce niveau-là, si c'est à ce niveau-là, après tu as les aides des subventions qui sont tout autres quand même.
Oui, surtout que là, en plus, alors là, ils ont la délibération d'hier soir, c'était pour la subvention classique au niveau de la DETR. Hein. Mmh. Mais par contre, maintenant, ils vont essayer d'aller chercher, parce qu'il y a tout un volume par rapport à Terre de Jeux 2024, hein, puisque c'est un sport olympique, où là aussi, on pourra avoir d'autres prétentions et essayer d'aller chercher des subventions supplémentaires, bien sûr. Alors ça, par contre, l'actuel, c'est vraiment la responsabilité du club de le remettre en état pour le propriétaire. Ça n'impacte pas du tout ni le budget de la CCMP, du BMX qui souhaite construire à Thiel. Hein. C'est vraiment indépendant. Le parc de Bénaud qui existe actuellement pour le BMX sera remis en état par le club de BMX de Bénaud et personne de la CCMP n'aura à y voir quelque chose. Ouais. C'est ça. Bah, là, c'est même plus chaque année. C'est presque tous les mois où les prix changent. Oui. Est-ce que c'est bon au niveau des questions diverses? Est-ce que je peux... Après. Bien, donc fin d'enregistrement de la séance du conseil municipal le 21 octobre 2021 à 21h43.